Bonjour à tous. Alors. C'est intéressant là la chaire qui est en forme de livre ouvert, très jolie, mais pas forcément très pratique quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, c'est une nouvelle technique à prendre. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Je suis arrivé vendredi soir et j'ai déjà vécu beaucoup de choses avec vous, la réunion d'hommes hier matin et midi, et hier soir une réunion avec le conseil. Et vraiment, je suis heureux de découvrir votre communauté, une communauté qui aime se réunir, être ensemble, partager des bons repas. Mais je vois aussi que vous aimez partager les temps de jeûne. Et Thierry disait que c'est pas facile parce que je peux être pas mal pris, mais c'est ma fonction d'être là parmi vous, de visiter les églises, et c'est vraiment un privilège de découvrir nos églises, de découvrir ce qu'elles visent et vivent, leur personnalité. Et c'est vraiment une bénédiction, et voilà, je souhaite aussi le partager partout où je vais, de ce que les églises de notre fédération, vos églises sœurs, sont belles, tout comme vous êtes une belle église. Je profite de ma présence pour partager les salutations de notre conseil national, et en particulier de son président, Nicolas Farelli. Nous avons le souci de votre église, comme des autres églises, et je serai heureux de pouvoir donner de vos nouvelles la prochaine fois que nous nous verrons. Thierry disait en introduction du culte que nous sommes là pour le Seigneur. Et c'est vrai. Pour le Seigneur, pour le louer, nous connecter à lui, nous tourner vers lui, avoir des choses à lui dire, répondre à son amour, à ce qu'il a fait pour nous. Mais nous sommes là aussi pour l'écouter. Écouter ce qu'il a à nous dire, comment il veut nous enseigner pour que nous puissions nous mettre en mouvement aussi dans nos vies à sa suite. Et par rapport à ma venue, quand j'ai posé la question de s'il y avait un thème ou un texte particulier à aborder avec vous, Thierry m'a dit « Écoute, ce serait bien de partager un peu sur l'Église Grand Angle ». C'est une réflexion qu'on a au niveau de la Fédération. Notre comité de réflexion théologique a travaillé cette question. Et effectivement, c'est une question intéressante à travailler. Élargir notre angle de vision pour voir l'Église de façon plus large que juste là où nous sommes, et comprendre de façon plus large ce que Dieu fait et ce qu'est l'Église. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte un peu large pour le coup, puisque je vais lire dans Apocalypse, et je vais lire entièrement les chapitres 2 et 3. C'est le début de la lettre, et Jean qui écrit cette lettre, écrit cette lettre à cette église. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept porte-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit : voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris la vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. À l'ange de l'église de Pergame, écrit : voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites, c'est là que se trouve le trône du Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as, toi aussi, des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit : voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au Seigneur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile. Ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Sardes, écrit : voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, Tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit : voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Père, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Laodicée écrit : voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien », sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu voies. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jusqu'ici, la parole de Dieu. De quelle église faites-vous partie? Quand on lit ce texte, ces deux chapitres, je ne sais pas vous, mais moi je suis tenté toujours de me dire mon église, à quoi elle ressemble? Parmi tous ces discours, toutes ces lettres, tout ce qui est envoyé, qu'est-ce qui me concerne? À quoi est-ce que je ressemble? Que pense Jésus de mon église? Ces lettres, elles ont été écrites à des communautés qui existaient vraiment. Jean, qui était en exil, a écrit cette lettre, une lettre circulaire. Et si on regarde sur la carte où se trouvent les différentes villes, on voit un circuit qui passe comme ça et qui montre la route que suivaient ceux qui visitaient l'Asie mineure. Elles sont écrites dans un contexte particulier, pour des églises particulières, mais quand même... Il est écrit, Jésus qui parle à Jean le dit et le répète, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc cette lettre circulaire, tout le monde avait intérêt à l'entendre, et nous avons aussi intérêt à l'entendre. Nous avons intérêt à l'entendre parce que c'est toujours les mêmes pièges qui guettent les églises, même si les hérésies, les déviances, les ennemis changent, les défis restent les mêmes. En lisant et relisant ces lettres, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui semble évident et qui pourtant m'interroge, devrait nous interroger, je pense. Jésus, chaque fois qu'il s'adresse à une église, utilise la deuxième personne du singulier. Tu. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et il s'adresse à l'église comme à une personne unique. Il s'adresse à l'ange de l'église de tel lieu. Comment est-ce que vous recevez ça? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir un avis, voire un avis négatif sur l'église d'où nous faisons partie? Par exemple, dit à l'église de Toulouse, tu chantes faux. Ben, c'est pas moi, moi je chante juste, il y a machine qui chante faux, mais... Ou alors, tu arrives en retard. Ben, c'est pas vrai, 60% des personnes étaient là à l'heure. Ben oui, mais 40% arrivent en retard, tu es en retard. Comment est-ce que vous recevriez une critique comme ça? On a tendance à se dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Et pourtant, Jésus s'adresse à l'Église comme une. Tu, c'est toi qui es ainsi. Et même quand il y a des personnes identifiées clairement comme mettant le trouble doctrinal, Jésus dit, tu tolères au milieu de toi telle personne, tel comportement. L'Église est vue comme une entité et on lui demande des comptes à elle comme une entité. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ça? Que nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, et que nous endossons une part de responsabilité commune. Mais j'irai encore plus loin en ajoutant une nouvelle dimension. C'est que certainement, il y a plus qu'une église là. Parce que quand Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, de Laodicée ou de Pergame, c'est sans doute plus qu'un seul groupe. Nous savons que, à l'époque, les églises n'étaient pas organisées, elles n'avaient pas de bâtiment comme vous avez ici ce bâtiment où vous réunissez. Mais c'est plutôt des groupes qui se réunissent dans les maisons et qui se connaissent entre eux. Donc l'église d'Éphèse, par exemple, sont plusieurs groupes. Comment prendre une critique, un jugement qui est fait à l'église qui est à Éphèse, alors que moi je ne suis pas à l'église d'Éphèse, je suis dans le groupe de maison de machin. Ça pose la question de la réception, comment je reçois ces critiques? Déjà, ce n'est pas évident de les recevoir quand il s'agit du groupe dans lequel je vais, mais est-ce que je suis capable de recevoir des critiques qui touchent quelque chose de plus large que mon groupe? Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez pensé. Souvent, on matérialise, on visualise bien notre église locale. C'est où on va, ça c'est mon église. On visualise aussi bien qu'il y a l'église universelle, hein, c'est tous les chrétiens partout par le monde et à travers les siècles. Mais entre les deux, est-ce qu'il y a quelque chose? Et ce quelque chose... Est-ce que c'est une église? Et pourtant, dans ce texte, Jésus dit bien, écrit aux églises. Et plus loin dans l'Apocalypse, il parlera de l'église une, la fiancée unique de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas un harem, mais une seule épouse, l'église. Comment conjuguer ça? Les églises, d'une ville qui regroupe plusieurs groupes et l'Église universelle. Je crois que ce texte et d'autres dans la Bible nous montrent que il existe entre mon Église locale et l'Église universelle d'autres groupes qui rassemblent et qui sont aussi sous certaines formes une Église. D'où ma question. Quelle est votre Église ? À quelle Église appartenez-vous ? Non pas une des sept à qui Jésus s'est adressé là, mais aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prêt de prendre un jugement porté par Jésus sur l'Église qui est à Toulouse ? Thierry me disait qu'il y a 70 églises ici. J'imagine qu'il y en a dont vous vous sentez proche et d'autres que vous regardez comme étant un peu étranges. C'est partout pareil, hein ? Est-ce que vous seriez prêt d'entendre quelque chose adressé à l'Église qui est à Toulouse ? Est-ce que vous assumeriez une parole comme ça ? Moi, j'ai une autre proposition. C'est d'écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église évangélique qui se trouve, à évangélique baptiste qui se trouve en France. Parce que notre fédération d'Église évangélique baptiste de France, nous croyons que c'est aussi une forme de l'Église. Ce n'est pas une Église qui se réunit tous ensemble tous les dimanches. Mais c'est quand même une Église qui se réunit. Qui se réunit, par exemple, dans son congrès une fois par an, où ce ne sont pas des personnes qui se rassemblent, mais des églises. Et votre Église envoie des délégués. Votre Église est présente dans ce rassemblement. C'est une Église qui partage la même confession de foi, les mêmes principes ecclésiaux, c'est-à-dire la même façon dont fonctionne l'Église. C'est dans vos statuts, comme dans les statuts de toutes nos églises. Nous croyons la même chose. C'est une Église qui œuvre au même endroit, sur le territoire français, pour manifester la présence de Jésus-Christ sur le territoire français. Pour moi, la Fédération des Églises évangéliques baptistes est un très bon candidat d'être comme ça, une structure, une Église au-dessus, plus grande, plus large que votre Église locale, plus petite que l'Église universelle. Une Église dont vous faites aussi partie. Waouh, qu'est-ce que je dis là ? Est-ce que vous vous sentez baptiste quand vous vous présentez « Moi, je suis baptiste » ? J'en suis pas sûr, je connais peu de personnes qui sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être membre de la Fédération des Églises baptistes, être membre d'une fédération d'églises comme ça, être membre d'une église plus grande que mon église locale. Je crois que c'est important d'avoir conscience de là où nous vivons. Nous vivons dans une société individualiste avec une logique associative. C'est pas mal d'être dans une société individualiste. Il y a des bons côtés. Par exemple, en étant individualiste, nous avons vraiment conscience de notre responsabilité individuelle, personnelle, devant Dieu. On se cache derrière les autres, mais on sait que nous avons péché personnellement et que nous avons besoin d'être pardonnés personnellement. Ça, c'est une bonne chose que nous apporte la société individualiste, notre responsabilité personnelle. Mais il y a aussi des choses plus mauvaises. La conscience du collectif, la conscience que je ne suis pas là tout seul, mais que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi, qui me dépasse. Et c'est ce qu'est l'Église. Dans notre société, nous voyons souvent le collectif sous l'angle de l'association. C'est-à-dire un lieu où nous venons pour nous associer, nous décidons de le faire. C'est ma décision de rejoindre telle église comme je rejoins telle association parce qu'elle convient à mon projet. Et cette dimension, pour l'Église, elle est peut-être encore plus exacerbée par le congrégationalisme. Qu'est-ce que c'est que le congrégationalisme ? Le congrégationalisme, c'est la façon de vivre l'Église, de voir l'Église, où l'autorité appartient à l'ensemble des membres. Non pas à un évêque qui délègue à des prêtres et avec quelque chose de pyramidal, mais l'autorité de l'Église s'exprime à travers le discernement des membres. C'est la façon dont nous voulons vivre les églises baptistes, c'est ce que nous reconnaissons comme étant biblique, nous nous reconnaissons là-dedans. J'aimerais préciser que le congrégationalisme n'est pas une démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir qui appartient au peuple. C'est l'étymologie. L'Église est une christocratie. C'est-à-dire que le pouvoir appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et quand nous nous réunissons ensemble en assemblée générale, ce n'est pas pour voter démocratiquement, mais c'est pour discerner ensemble quelle est la volonté de Jésus-Christ pour nous. Donc, concrètement, ça se termine par un vote. Mais ce n'est pas un vote où on se retrouve dans l'isoloir, en notre âme et conscience, pour mettre le bulletin auquel on a réfléchi chez nous. C'est un vote qui vient matérialiser un processus où nous nous sommes interrogés, écoutés ensemble, où nous avons prié pour discerner ce que Dieu veut pour nous. Et nous l'avons fait pas avec... En étant les uns à côté des autres comme ça, en reconnaissant aussi les dons que Dieu a donnés à son Église. C'est écrit, Paul en parle largement dans ses épîtres, les Églises sont organisées autour de dons que Dieu donne à son Église. Et en particulier, les dons de la parole, de ceux qui enseignent. L'autorité, la direction dans l'Église, elle est donnée par la parole. C'est là qu'on va trouver la volonté de Jésus-Christ. Et donc, lorsque l'Église, lorsque l'Assemblée générale discerne la volonté de Dieu, elle va donner forcément une place particulière à ceux à qui elle a reconnu le don de la parole. Aux pasteurs, aux anciens, elle a reconnu ce don, forcément, il va falloir les écouter d'une façon particulière. Non pas parce qu'ils sont supérieurs à moi, mais parce que j'ai reconnu que Dieu leur a donné cette fonction. Donc, définitivement pas une démocratie, même si ça se termine par un vote. Je disais que notre façon associative de voir l'Église est influencée par le congrégationalisme, parce que le congrégationalisme déclare aussi l'autonomie de l'Église, de chaque Église locale. Nous croyons que chaque Église locale a au milieu d'elle tout ce qu'il faut pour être une Église. Et nous nous basons sur cette parole de Jésus-Christ, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il n'y a pas besoin d'un évêque, il n'y a pas besoin d'autre chose. L'Église est autonome dans le sens où elle a tout ce qu'il lui faut pour être Église. Quand on voit les choses ainsi, il est facile de considérer notre fédération comme une structure qui facilite certaines choses comme la formation des pasteurs, l'envoi de missionnaires ou l'implantation d'églises. C'est comme ça une superstructure où on met des moyens en commun, on y adhère parce que c'est pratique pour nous, que ça nous apporte quelque chose, mais si on ne s'y reconnaît pas, on sort pour adhérer à une autre. Mais je crois que c'est plus que cela. Et j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est qu'une église ne peut pas tout faire tout seul. Si une église a tous les éléments qui lui permettent d'être église, elle ne peut pas tout faire tout seul. Par exemple, la formation des pasteurs, envoyer des gens en mission, des missionnaires dans d'autres pays, ou implanter des églises sur tout le territoire, comment une église individuelle telle que la vôtre peut le faire? Et pourtant, ça fait partie du rôle d'une église. Comment aussi enclencher des mouvements comme une dynamique de jeunesse ou une diversification des dons quand on est juste une église comme ça? Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Comment mener un dialogue sérieux avec les autres églises ou avec les autorités de la ville ou du pays quand on est simplement une église? Et pourtant, c'est quelque chose que nous sommes appelés à faire. Une église ne peut pas tout faire toute seule. Et je dirais également qu'une église locale n'a pas tous les dons. Toutes les églises n'ont pas un exégète vraiment pointu qui est capable de décortiquer le texte profondément et de l'expliquer. Toutes les églises n'ont pas un éthicien, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de réfléchir aux questions éthiques. Toutes les églises n'ont pas un comité de réflexion théologique pour faire évoluer sa pensée. Il y a besoin de quelque chose de plus grand. Et là, la question revient. Mais s'il y a besoin de quelque chose de plus grand, en quoi est-ce que nous sommes autonomes si nous sommes dépendants des autres? Et c'est là que j'aimerais partager avec vous une notion qui me semble importante pour comprendre cela. C'est la notion de réception. La réception, c'est quand nous recevons. Et l'Église est appelée à recevoir les enseignements qui viennent de l'extérieur, les examiner, les reconnaître conformes à la volonté de Dieu, et ensuite de les mettre en œuvre en son sein. C'est un peu théorique, mais j'ai des exemples. Au niveau de notre fédération, nous avons conçu une charte enfance pour que ceux qui travaillent auprès des enfants respectent certaines choses pour protéger les enfants. La société nous interpelle, nous répondons ainsi. C'est quelque chose qui a été travaillé par le comité enfance et jeunesse de la fédération, dialogué avec les églises, adopté en congrès et envoyé aux églises pour qu'elles le reçoivent. Reconnaissent que c'est quelque chose de bon, d'aligné avec la parole de Dieu, et qu'elles le mettent en œuvre en leur sein et s'y soumettent. Nous avons eu aussi une charte contre les violences conjugales, encore une fois interpellée par la société, par ce que nous vivons. Un groupe de théologiens a réfléchi, a vu combien ce problème était actuel, était impensé et pourtant présent dans l'Église, et a voulu écrire un texte pour interpeller et mettre en place des choses pour que ce n'ait pas lieu dans nos Églises et pour que nous soyons vigilants. Encore une fois, ça a été dialogué en Église, adopté et envoyé dans les Églises pour être reçu. Nous avons ainsi un texte sur les ministères féminins, un texte sur les dons de l'Esprit, où nous avons travaillé ensemble pour que les églises charismatiques en notre sein et les églises qui sont plus traditionnelles puissent vivre ensemble, se reconnaître mutuellement et ne pas se condamner. Vous voyez, et ces textes, chacune de nos églises est invitée à le recevoir. Reconnaître que ce que dit ce texte est en accord avec ce que nous croyons, en accord avec ce que dit la Bible. Et puisque nous le reconnaissons, eh bien, nous le mettons en œuvre en notre sein. Et en fait, cette histoire de réception, ce n'est pas très original. C'est ce que nous faisons individuellement, parce que notre foi, nous ne l'avons pas inventée. Ce que nous croyons, nous l'avons reçu. L'Évangile nous a été partagé, nous avons été enseignés et nous avons reconnu que cette parole donne la vie éternelle, que nous voulons y croire. Nous avons reçu le canon biblique, les livres qui sont dans la Bible, nous ne les avons pas interrogés, l'Église les a reçus, l'Église nous les a transmis et nous les recevons à notre tour. Et des fois, il y a des paroles comme ça qui nous dérangent, avec lesquelles on n'aimerait pas forcément être d'accord, mais nous savons qu'elles viennent de Dieu et nous lui demandons de nous éclairer. J'irai plus loin, chacun d'entre nous aussi, je crois que nous recevons notre Église. Nous ne choisissons pas notre Église, nous la recevons. On peut avoir l'impression d'avoir choisi son Église parce qu'on en a fait le tour de différentes églises et c'est celle-là que je préfère, c'est celle-là que je choisis. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous envoie dans telle ou telle Église et qui nous montre que c'est là que nous devons nous installer? Je me souviens, quand j'étais jeune, ça m'a marqué le témoignage d'un grand frère dans la foi qui devenait membre de l'Église, quelqu'un qui avait une vie compliquée, qui avait beaucoup bougé. Et dans son témoignage, il disait « Je deviens membre de cette Église parce que son métier, c'était jardinier. » Il disait « Je deviens membre de cette Église parce que j'ai vu que c'est un bon jardin où je vais pouvoir pousser, grandir. » C'est un don. Il a reconnu que l'Église lui était donnée et que c'était le lieu que Dieu voulait pour lui, pour grandir. L'Église à laquelle nous sommes attachés existait avant nous. Elle est un cadeau que nous devons recevoir. Et certainement, on ne se reconnaît pas dans la totalité de toutes les pratiques de notre Église. Mais on est appelé à accepter qu'elles ne soient pas exactement comme je veux, à nous soumettre à cela, au fait qu'elles fonctionnent ainsi. Si c'est quelque chose qui est trop central, qu'on voit en décalage avec la foi, alors certainement, il faut tirer les conclusions. Ce n'est pas le lieu où je suis appelé. Mais si c'est secondaire, il y a aussi une forme de soumission, de se fondre dans le collectif. Je suis un membre du corps de Dieu, placé là par mon Dieu. Je dois m'y soumettre et découvrir ce qu'il attend de moi dans ce lieu. Et je crois que de la même façon, nous recevons notre fédération d'Église. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis devenu membre de mon église baptiste pour la première fois, je ne me suis pas posé la question de la fédération. J'ai reçu cette adhésion en prime dans mon adhésion à l'église. Mais c'est quand même quelque chose à recevoir, comme les textes, comme les dons spécialisés qui viennent de là. En devenant membre de mon église, je deviens aussi membre de la fédération. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais revenir un peu au texte biblique. Qu'est-ce que ça veut dire être membre de la fédération? Qu'est-ce que le Seigneur a à me dire, à dire à cette fédération dont je fais partie et dont, mes amis, vous faites partie, dont nous faisons partie ensemble? Et j'en appelle maintenant à votre indulgence, avec toute humilité et sans me prendre pour Jésus, bien entendu. J'aimerais imaginer un peu ce que pourrait dire Jésus à l'ange de l'Église évangélique baptiste qui est en France. Voici ce qu'il pourrait nous dire. Je sais où tu vis. Tu vis dans un monde laïque et individualiste. Tu n'as pas de persécution franche qui jette les frères et sœurs en prison. Et pourtant, il y a des moments difficiles, des pressions administratives et des moqueries. Tout cela, je le sais. Tu n'es pas puissante comme certaines églises phares qui attirent les foules, mais tu persévères depuis 100 ans sur tout le territoire français. Tu as dans ton histoire de belles œuvres, des implantations dans de nombreux lieux de ton territoire. Tu as participé à un travail pour l'unité des églises, tu as un cœur pour le social. Mais j'aimerais aussi te dire, retrouve ton premier amour. Attache-toi à cet élan, l'évangélisation de ton pays, du territoire où je t'ai placé. L'implantation d'églises, en particulier dans les lieux où il n'y en a pas. Tu l'as fait par le passé, mets-toi en route pour que mon témoignage grandisse dans ton pays. J'aimerais te dire également, n'oublie pas les pauvres. Je suis venu sur terre pour faire du bien à ceux qui en avaient besoin. Continue à le faire, toi aussi, comme je l'ai fait. Tu as le piège d'un congrégationalisme mal compris. Il est facile de voir l'Église comme des individus qui s'associent. N'oublie pas que tu es Église de Jésus-Christ. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai choisi et qu'en prenant le baptême, tu as dit que tu allais me suivre et que tu serais mon esclave. Je me réjouis de voir que tu veux vivre un congrégationalisme d'alliance. Je me réjouis de voir que là où tu en es, tu veux te mettre en mouvement, que tu veux prendre en compte les changements qui sont dans le monde. Favoriser l'émergence de leaders parmi la jeunesse, favoriser l'émergence d'une diversité de ministères, favoriser l'émergence de vocations pastorales et missionnaires, alors que le nombre de mes serviteurs décroît. Favoriser le développement d'une culture de mission partout où tu es. Je t'encourage à retrouver, renouer cet amour et te mettre en mouvement, ensemble, unis. Persévère. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que chacun d'entre nous, nous puissions entendre mon partage, continuer à interroger le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à notre Église, notre fédération? Que retenir de cette prédication? Un peu théorique, j'en ai bien conscience. Il y a des prédications qui parle directement de ce que nous vivons. Là, nous avons voulu voir l'Église grand angle, élargir notre vision. Je crois que nous pouvons avoir là une meilleure compréhension de ce qu'est l'Église et de notre place de l'Église. Et une meilleure compréhension, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours une application pratique que de mieux connaître l'Église. S'il y a une chose que j'aimerais faire passer, c'est cette notion de réception. Quand nous recevons quelque chose, nous avons toujours un rôle à jouer. Nous ne sommes pas soumis à ce qui est au-dessus de nous, nous sommes pleinement Église, pleinement autonome, mais nous reconnaissons que tout ne vient pas de nous et que nous recevons des choses qui nous nourrissent et des choses qui sont bonnes. Nous sommes appelés en Église, ensemble, aussi bien qu'individuellement, à recevoir ce qui nous est donné. Et puis pour terminer, dire que nous avons aussi, au sein du collectif, une responsabilité individuelle. Parce que le Seigneur nous dit, tu as fait ceci, tu as laissé un tel faire cela. Et nous sommes invités aussi, chacun d'entre nous, à ne pas laisser faire et ne pas laisser les choses comme si ça ne me concernait pas parce que ce n'est pas moi directement. Nous avons une responsabilité tous ensemble, et tous ensemble, ça veut dire que ça ne me met pas de côté et que ça retire ma responsabilité. J'aimerais vous laisser réfléchir quelques instants à cela, et puis je conclurai par la prière.